Bonjour Annabelle.
Bonjour Arnaud.
Alors c'est fabuleux, on se retrouve dans ce studio et là, vous avez May qui est dans vos bras.
C'est ça.
Elle est là, elle a un mois et demi et elle se manifeste un peu. On ne sait pas trop finalement ce qu'elle veut. Et oui, il y a une petite selle là qui est venue.
Ouais.
Et puis, ça va peut-être être l'heure du biberon.
Ah bah oui, parce qu'elle commence à se manger les mains, c'est un peu
elle
sa technique.
Elle commence à se manger un peu les mains.
Ouais, c'est ça.
Bon, est-ce qu'elle salive un peu?
Oui.
Elle commence.
Ouais, elle commence un petit peu à saliver.
Alors c'est vrai que en général, c'est à l'âge de 6 semaines, un bébé commence à saliver. C'est la mise en route des dents, les poussées dentaires.
Okay.
Alors les dents vont pas sortir là, elles sortiront vers 8 ou 9 mois. Mais elles commencent à avancer micron par micron dans la gencive. Et du coup, la gencive réagit en fabriquant plus de salive. Parce que dans la salive, entre autres, il y a des anti-inflammatoires, des antidouleurs naturelles. Donc elle va se masser la bouche.
Bah, elle se masse déjà la bouche, j'ai l'impression aussi avec ses doigts, souvent qu'elle, quand elle dort, elle... Oui. Allez, hop.
Et en plus, il ne faut pas oublier que parce qu'elle met les mains dans la bouche, ce n'est pas uniquement parce qu'elle a faim, c'est aussi parce que la bouche, la gencive, la langue, le tour de la bouche, c'est un véritable scanner chez un nouveau-né et elle analyse tout à cet endroit-là.
D'accord.
La forme, la température, la consistance. C'est vraiment une zone très innervée, très sensible et qui lui transmet un maximum d'informations. Donc, c'est super.
Eh ben oui.
Alors, de quoi on parle aujourd'hui?
Moi, j'avais des questions notamment sur les coliques.
Oui.
Parce que c'est vrai que c'est quelque chose, je trouve, qui est difficilement perceptible. En fait, on ne sait pas trop est-ce qu'elle a mal au ventre, qu'est-ce que c'est vraiment les coliques, à quel moment, moi j'ai l'impression que ça apparaît plutôt le soir, c'est marrant parce qu'en journée on dirait qu'elle a pas mal au ventre et c'est le soir qu'elle a mal au ventre, ce qui est assez bizarre finalement parce qu'on lui donne la même quantité à boire, etc. Alors c'est vrai que pour le coup moi j'allaite pas, mais il y a aussi des mamans allaitantes qui rencontrent les coliques et qu'est-ce qu'on fait?
Alors autrefois on parlait de coliques vespérales,
okay.
Parce qu'elles apparaissaient au moment des vêpres. C'était les coliques vespérales. Dans les livres, on parle encore de coliques vespérales. On parle aussi de pleurs de décharge du soir.
Oui.
Et c'est vrai qu'on sait, par expérience, que c'est plutôt en fin de journée, pour tout un tas de raisons. Et la raison principale, alors que ce soit en allaitement ou avec un lait infantile, c'est pareil.
Oui, c'est pareil.
Et c'est souvent à partir de 19-20 heures, ça peut être jusque vers 23 heures, minuit. C'est une zone un petit peu complexe. Et en fait, il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est que il y a une mémoire. C'est-à-dire que May, tous les enfants ont un vécu dans la journée. Et dans la journée, l'éveil, les parents, il y a des bruits, il y a des sons, il y a des temps de portage, des temps où l'enfant est seul, il y a des temps où il est un peu secoué, remué dans la poussette, dans l'ascenseur, dans la voiture. Il y a des moments de caresse, des moments de repas, des moments de digestion. Bref, tout ça fait que dans le cerveau du bébé, du nourrisson, de moins de 3 mois, 4 mois, eh bien, ça va donner des décharges. C'est pour ça qu'on parle un peu de pleurs de décharge en fin de journée. C'est-à-dire qu'il y a un peu tout dans le cerveau qui s'entrechoque, toute cette mémoire de ces moments, de ces découvertes, de tous ces sens qui sont en éveil. Et j'en profite pour rappeler qu'un nouveau-né, un nourrisson, vit par les sens, essentiellement. Le premier d'entre eux, c'est le pot à pot, c'est-à-dire le toucher. Et c'est essentiel, le toucher, pour apaiser un bébé, le prendre contre soi, le pot à pot, ou le pot à poil, quand c'est avec un papa. Il y a l'audition, qui, je le rappelle, est très développée chez un nouveau-né. Il y a une hyperacousie, donc un bébé entend beaucoup plus les bruits qu'un adulte, donc ça impacte aussi son cerveau. Il y a l'odorat. Et il y a, bien sûr, le goût, tout ce qui passe par la bouche. Donc tout ça, fait, et puis la vue. Mais la vue, elle est encore un peu immature. Elle va se développer au bout de 2-3 mois. Mmh. Et je vous rappelle que May, pour le moment, elle voit encore en noir et blanc. Mmh. Et la couleur commence à apparaître. Là, à un mois et demi, 2 mois, elle commence à avoir la couleur qui apparaît. Donc, les coliques, oui, c'est un, plutôt en fin de journée. Deux, ça peut toucher les enfants quel que soit le mode d'alimentation, allaitement ou lait infantile. Et trois, ça apparaît en général vers l'âge de 1 mois. Il est rare d'avoir des coliques le premier mois. Je parle pour un enfant qui est né à terme. Un enfant qui est prématuré, c'est différent parce qu'il peut avoir peut-être une immaturité de son intestin qui fait qu'il aura du mal à digérer tel type de lait ou autre. On utilisera des laits adaptés si besoin, ou le lait de la maman qui est tout à fait adapté. Voilà.
Et c'est vrai que ça, pour le coup, j'aimerais le rappeler, enfin, parce que vous me l'avez dit, et il ne faut pas changer de lait ou il ne faut pas changer spécialement son alimentation quand on allait, parce qu'on a l'impression que son bébé a des coliques. C'est normal, en fait, qu'il ait des coliques.
Voilà. Alors, les coliques, c'est une espèce de diagnostic internet.
Oui.
Parce que dès qu'un bébé pleure et qu'il remonte les jambes ou qu'il a un gaz, ah ben ça y est, j'ai fait un diagnostic, c'est des coliques. Oui. En fait, dans 90% des cas, ce n'est pas des coliques.
Okay.
Et on se plante. On se plante parce qu'on croit que c'est des coliques, parce qu'au fond, c'est le diagnostic qu'on fait à la maison. On se dit c'est des coliques, il a peut-être faim ou il ne digère pas bien, il a des gaz. Alors, bon. Mais ça peut être tout à fait autre chose. Un bruit qu'il a incommodé une heure avant. Il a sommeil, il a du mal à rentrer dans le sommeil. Il a besoin d'être porté. La position ne lui convient pas, il a trop chaud, il transpire, un nourrisson transpire facilement. Donc, les douleurs dentaires, on l'a vu, les poussées dentaires qui commencent vers l'âge de 6 semaines, donc ça a pu le faire mal, ça dure en général quelques jours, c'est comme des pointes de poignard dans la gencive, ça peut faire très très mal. Et comme, alors, c'est pas une douleur intense, mais comme votre nourrisson ne sait pas ce que c'est que la douleur, il découvre, pour elle, c'est nouveau. Et quand c'est nouveau, on a plus mal. Forcément,
bah oui.
C'est très psychologique. Donc, besoin d'être assuré. Donc,
Finalement, les coliques, pas tout le temps se dire que c'est des coliques, pas se dire qu'il faut absolument changer le lait ou faire changer ci ou changer ça.
Alors,
il faut.
L'objectif, c'est un, de ne pas se dire c'est une colique, puisque le mot colique, on essaye de l'utiliser de moins en moins. C'est un pleur du nourrisson, une agitation du nourrisson. Il va falloir identifier pourquoi. Et les causes sont multiples, comme je le disais. Deux, effectivement, une erreur qui est très souvent commise, alors pas pour les mamans qui allaitent, là c'est facile, elles allaitent, elles ne se posent pas de questions. Si, elles peuvent se dire, j'ai peut-être mangé du chou ou des asperges.
C'est ça.
C'est bon les asperges d'ailleurs.
Ouais.
Et puis ça
c'est
peut
vrai.
Favoriser des gaz ou de l'artichaut. Alors mangez de l'artichaut, vous allaitez, vous allez voir, votre bébé il va adorer. Hein. Là il va devenir, il va péter dans tous les sens, mais pas toujours, mais ça peut.
Donc
il faut faire attention à ce qu'on mange. Pareil, si on prend des antibiotiques, un médicament, si on boit de l'eau gazeuse, si on mange trop de chocolat. Ou, parfois, je vois des mamans qui allaitent et qui se disent « Ah, ça doit être le lait de vache » et qui arrêtent spontanément les protéines de lait de vache. Et après, on arrive dans une impasse alors que ce n'est pas du tout ça. Donc, ne pas prendre d'initiative quand on allait sur son alimentation, on fait le point avec son médecin. Si on utilise un lait infantile, une erreur qui est très souvent commise par les parents, c'est le lait. Le lait ne doit pas lui convenir. On parle avec une copine, ah tu devrais essayer tel lait, ou on va voir le pharmacien. Le pharmacien, lui, il va vendre sa gondole. Hein. Lui, il a les laits sur lesquels il va faire des marges. Je ne dis pas qu'il fait ça, non, mais disons qu'il voit une maman qui est un peu au bout du rouleau, qui est fatiguée, il va lui dire, peut essayer tel et tel lait. Il va être dans le conseil, bien entendu, mais du coup, on risque de tomber dans « je change première fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois ». Et nous, pédiatres, nous voyons des mamans ou des parents qui arrivent en consultation, le bébé n'a même pas encore un mois, il y a déjà deux laits, trois laits qui ont été essayés. Ah ça ne marchait pas, alors j'en ai essayé un autre, j'ai pris celui de la voisine et tout ça. Ne prenez jamais ces initiatives-là, ne changez pas de lait, faites le point avec le médecin parce que c'est sérieux, un lait, les laits ont des constitutions, des compositions qui sont très différentes, le taux en lactose, le taux en acide gras, le taux en plein de choses, en sucre, et qui fait que on peut avoir du mieux pendant deux ou trois jours. Et la plupart du temps, ça redémarre comme en 40, 3-4 jours après, on est désespéré et les parents sont au bout de leur vie.
C'est ça. Et j'aimerais dire aussi pour celles et ceux qui n'allaitent pas, et ce qui est mon cas, c'est bien anticiper aussi toujours d'avoir du lait. Parce que par exemple, nous, ça nous est arrivé d'un coup se rendre compte qu'on n'a plus de lait. On est dimanche, pharmacie de garde, et toutes les pharmacies de garde n'ont pas votre lait. Et donc ça, c'est important en tout cas de se dire qu'il faut vraiment... faire attention. D'ailleurs, je suis en train de donner le biberon à May qui...
Elle a l'air d'aimer.
Ah oui, elle adore.
Elle aime bien son lait. C'est le même depuis le début.
C'est le même depuis le début. On n'a pas changé.
C'est bien.
Et elle aime bien faire des petites pauses, en fait, pour faire un petit rot. Et donc, on lui fait un petit rot pendant le... Vous allez peut-être l'entendre, d'ailleurs. Ah ben voilà.
Voilà. Et voilà, sorti. En direct.
C'est
en direct.
Ça. Il est sorti.
Et c'est fabuleux. Alors, voilà. C'est vrai que la manière de prendre le lait, le biberon, la tétine. Il y a des tétines anti-reflux, il y a des biberons anti-reflux. Alors, j'ai envie de dire, plus c'est cher, moins c'est efficace. Donc, faut pas non plus tomber dans un excès. Le plus simple, c'est de bien positionner son nourrisson en position demi-assise, bien pris dans le creux des bras, au calme, c'est très important.
Ouais,
c'est pas qu'il y ait de bruit. Donc là, évidemment, on parle. La pauvre, c'est tout ce qu'il faut peut-être pas faire.
Oula, ouais.
Mais bon, c'est...
Si vous arrivez à me ramasser, on a fait tomber le biberon. Voilà, c'est ça le live, le direct.
Mais oui, c'est bien.
Et oui, non, effectivement, alors le calme, ça, je me rends compte à quel point elle adore prendre le biberon au calme. Et elle fait des eye contact, elle me regarde dans les yeux.
Voilà.
Et ça, elle adore. Et je pense que c'est aussi important de rappeler que, effectivement, des fois, on a envie d'être sur son téléphone, on a envie de faire autre chose. En même temps qu'on donne le biberon,
voilà.
Moi, je m'oblige vraiment à ne pas le faire. Il y a juste parfois la nuit où pour moi-même être stimulée, parce que ça m'est déjà arrivé de m'endormir en lui donnant le biberon parce que j'étais fatiguée. Et du coup, c'est vrai que... Ça, c'est... voilà, j'essaye de me stimuler un peu, mais sinon, on la regarde, quoi, en lui donnant le biberon.
Voilà, on la regarde. Il y a le contact visuel qui est très important, parce qu'un bébé a une vision qui ne va pas loin, qui va à 50, 80 cm, c'est-à-dire jusqu'au visage du parent.
Oui.
La nature fait bien les choses. Elle voit votre visage, elle reconnaît les formes. Bien sûr, elle entend votre voix, le parfum, vos odeurs. Mais ça, ça apaise un bébé. Et c'est vrai qu'il faut être complètement dédié à son bébé quand on lui donne le biberon ou le sein, parce que le bébé le sent. Si on est en train de faire autre chose, ou alors évidemment regarder la télé ou autre, c'est pas bon. Alors, en plus, je rappelle qu'avant 3 ans, zéro écran. Donc, il ne faut pas habituer un enfant. Et j'en profite aussi pour dire que vous avez parlé de ça, de l'endormissement, le risque de s'endormir la nuit. Beaucoup de parents utilisent le cododo, c'est bien, les premiers mois c'est pas mal parce que c'est pratique, on a bébé dans la chambre, on entend ce qui se passe, on se rassure aussi, on se dit comme ça au moins s'il fait une mort subite, bah, je serai là. Bon, mais ça il faut pas y penser parce que ça changera rien si on fait du cododo. Et donc attention à pas s'endormir sur bébé parce qu'on a le droit d'être fatigué les premiers mois et c'est normal. Et puis, il faut alterner, tantôt le papa, tantôt la maman ou l'autre parent, pour être vraiment apaisé et pas être au bout de sa vie.
C'est ça.
Et puis, il y a un sujet aussi très rapidement dont je voulais parler, quand il y a des coliques. Souvent, on croit que c'est une colique, le lait qui n'est pas digéré, tout ça. Et souvent, on se dit, ah ben, si ce n'est pas ça, c'est un RGO.
Oui,
et
oui,
on va en parler
RGO.
Un peu.
Oui.
On va parler après, on va parler un peu du RGO. Et j'en parle d'ailleurs dans l'un ou l'autre de mes podcasts. Hein. Il ne faut pas hésiter à aller sur Pédiatre Online pour voir tous les podcasts que j'ai enregistrés. Et c'est vrai que sur les coliques, sur les RGO, sur les techniques alimentaires, le type de lait, n'hésitez pas, je donne beaucoup de détails. Et attention à ne pas faire de diagnostic hâtif. Et le RGO, le reflux gastro-œsophagien, plein de gens font le diagnostic eux-mêmes, alors que là aussi, dans 90% des cas, ça n'est pas le cas. Je rappelle que tous les nourrissons ont des régurgitations, et c'est normal, parce que quand un bébé est dans le ventre de sa maman, bah, ça rentre par la bouche, ça ressort par la bouche, ça fait des allers-retours. Et c'est avec le temps, ça prend quelques mois, il y a une maturation d'un système anti-reflux à partir de l'estomac qui va se mettre en place. Mais ça... Ça va se mettre en place avec la motricité qui va se développer du nourrisson, qui va muscler ses abdominaux, qui va apprendre à bouger, à se mettre sur le côté, puis plus tard à se retourner. Et c'est grâce à tout cela que les régurgitations vont diminuer. Le vrai RGO, il est rare. Ça, c'est un diagnostic fait par un médecin, éventuellement avec une échographie si besoin. Et là, il y aura des traitements ou des laits adaptés à utiliser
dans
ces cas-là.
Mais je propose peut-être qu'effectivement, dans le prochain podcast, on en parle.
Ben, on peut faire ça.
On fait ça.
Allez.
Top. Et ben, merci Arnaud.
Merci Annabelle. À bientôt.
À bientôt.